Bonsoir Aurélie Kiefer.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. La Turquie est passée à l'offensive dans le nord de la Syrie. Les forces turques veulent se débarrasser des Kurdes du YPG, qu'ils considèrent comme des terroristes, analyse dans un instant avec Omar Waman. En Allemagne, l'attaque d'une synagogue fait au moins 2 morts dans la ville de Halle, en pleine fête religieuse juive. Le parquet antiterroriste est saisi, correspondance de Ludovic Piétenu. Des robots pour réparer l'EPR de Flamanville, c'est le projet d'EDF qui doit revoir une nouvelle fois à la hausse le coût du chantier. On fait le point avec Véronique Reberotte. Régulariser sa situation ou renouveler son titre de séjour, des démarches qui relèvent du parcours du combattant, obtenir un rendez-vous en ligne relève de l'exploit, dénoncent les associations. Les forces armées turques et l'armée nationale syrienne ont débuté l'opération Source de paix dans le nord de la Syrie. Voilà le tweet posté cet après-midi par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Peu après, des ONG confirmaient des frappes aériennes dans la région de Ras al-Ain, dans le nord syrien, près de la frontière turque. En annonçant dimanche le retrait des troupes américaines de la région, Donald Trump avait semblé donner son feu vert à une telle opération militaire contre la milice kurde des unités de protection du peuple, même s'il a ensuite fait marche arrière. Bonsoir Omar Waman.
Bonsoir Aurélie.
L'objectif affiché de la Turquie, c'est de mettre en place une zone de sécurité dans le nord-est de la Syrie.
Oui, c'est l'objectif affiché d'Ankara qui veut chasser ces unités de protection du peuple, une milice kurde considérée, vous l'avez dit, par Ankara comme terroriste en raison de ses liens avec le PKK. L'offensive est d'abord aérienne, des raids de l'aviation turque sur la ville de Ras al-Ain, dont le ciel est noirci par des colonnes de fumée. La panique au sein de la population est totale. Des milliers d'habitants ont commencé à fuir en direction du sud du pays. Il y aurait même des victimes parmi les civils, selon plusieurs sources. L'offensive terrestre, elle, n'a pas encore commencé. Elle sera menée par des groupes rebelles syriens supplétifs de l'armée turque, comme l'armée syrienne libre, l'ASL, massée le long de la frontière depuis plusieurs jours et qui n'attend plus que le feu vert pour entrer en Syrie.
Alors l'opération militaire turque n'est pas vraiment une surprise, hein, Omar. Le président turc n'avait pas caché ses intentions.
Oui, Recep Tayyip Erdogan n'a jamais fait mystère de son projet. Il l'a longuement évoqué le 24 septembre dernier à la tribune de l'ONU à New York. Dans un premier temps, il envisage le contrôle d'une bande de territoire longue de 120 km et profonde d'une trentaine de kilomètres. Une zone tampon qui irait de Tal Abyad et Ras al-Ain, les deux premières cibles de l'offensive en cours. À terme, la Turquie souhaite créer un corridor, un espace qui irait jusqu'à la frontière irakienne, soit près de 500 km pour y installer une partie des 3 millions de réfugiés présents actuellement en Turquie.
Alors pour les Kurdes aujourd'hui, est-ce qu'il y a une porte de sortie ?
Non, la marge de manœuvre des Kurdes est réduite. Après le début de retrait de l'armée américaine, les forces démocratiques syriennes, CFDS, se retrouvent privées de parapluies et comptent surtout sur la communauté internationale pour arrêter, pour mettre fin à cette offensive qui a provoqué un véritable tollé à travers le monde. La France a d'ailleurs saisi le Conseil de sécurité de l'ONU. La seule issue pour cette minorité du nord-est de la Syrie, c'est un rapprochement avec le régime de Bachar el-Assad qui l'a marginalisé par le passé. Des négociations sont en cours. Le gouvernement syrien a plusieurs fois appelé les Kurdes à revenir dans son giron et à travers le régime syrien, c'est la Russie dont les Kurdes cherchent désormais la protection.
Merci Omar Waman. Le Conseil de sécurité des Nations Unies va se réunir en urgence demain. Le parquet antiterroriste allemand s'est saisi de l'enquête sur la fusillade survenue cet après-midi à Halle, dans l'est de l'Allemagne. En plein Yom Kippour, jour du grand pardon pour les juifs, une synagogue a été attaquée. Les tireurs s'en sont également pris à un restaurant turc. Au moins 2 personnes ont été tuées. Il y a aussi des blessés graves. Ludovic Piétenu s'est rendu sur place à aller écouter son reportage.
La police a établi un large périmètre autour de la synagogue, une zone interdite. Des forces spéciales se concentrent sur un pâté de maison en particulier à la recherche d'un suspect, l'un des 2 hommes qui aurait participé à la fusillade. On voit ces forces en armes, cagoulées et casquées, entrer et sortir, fouiller chaque immeuble l'un après l'autre, sous l'œil de badauds et de quelques riverains qui espèrent rentrer chez eux. Dick habite l'un de ces immeubles, il fait part de son étonnement, ne comprend pas comment une telle chose a pu se produire dans sa ville paisible à Berlin, Hambourg, Francfort, Cologne, des grosses villes. Il comprend, mais une histoire pareille à Halle, c'est à peine croyable, dit-il. Beaucoup d'habitants ont très vite eu vent de ce qu'il se passait grâce aux réseaux sociaux, aux alertes sur les téléphones et ont pu respecter la consigne transmise par la police de rester chez soi ou de se mettre à l'abri. Lily était à l'université. Ce soir, elle veut rentrer chez elle. Elle va devoir attendre la fin des recherches. Ça s'est passé à moins d'une rue de mon appartement, explique cette étudiante. Elle se dit choquée, sans pour autant avoir peur. Ce qui est étrange, confie-t-elle, c'est qu'on ne sait pas ce qui peut se passer encore et la cible n'a rien de banal. Cette synagogue dont la porte porte des traces d'impact de balles, cette porte qui mène d'abord à une cour, puis au lieu de culte lui-même, a résisté. Devant elle, gît le corps d'une femme, recouvert d'une bâche bleue.
Ludovic Piétenu, notre correspondant en Allemagne. C'est un nouveau coup porté au principal opposant au Kremlin, Alexei Navalny. Les autorités russes viennent de classer son organisation anticorruption comme agent de l'étranger, une mesure qui la soumet à une surveillance accrue. Le Fonds de lutte contre la corruption, à l'origine de nombreuses enquêtes dénonçant les malversations et le train de vie fastueux des élites russes, était déjà visé par une affaire pour blanchiment. On retrouve Claude Bruyot à Moscou.
La décision du ministère russe de la justice correspond en fait à la suite logique de l'enquête diligentée durant l'été contre le fonds de lutte contre la corruption de Navalny, soupçonné à l'époque de blanchiment par les autorités. Mais cette fois, c'est un cran supplémentaire sur l'échelle de la pression qui est mise sur l'opposant numéro un, Vladimir Poutine. Navalny et son organisation, dont les comptes bancaires sont déjà gelés, vont devoir subir de nouveaux contrôles et de nouvelles contraintes de la part des différentes administrations, qu'elles soient judiciaires, policières ou financières. Leurs libertés de mouvement, déjà très limitées, seront davantage réduites encore et soumises à de nouvelles obligations. De son côté, Alexei Navalny affirme que son organisation, le Fonds de lutte contre la corruption, ne fonctionne qu'avec de l'argent russe et qu'il ne peut en aucun cas être considéré comme un agent de l'étranger, que tout cela finalement n'est qu'une réponse aux manifestations d'opposants au pouvoir cet été. Un point que ne conteste pas en revanche Alexei Navalny concerne le caractère politique de ses actions, lesquelles, sans avoir même été autorisées à présenter des candidats lors des dernières élections à Moscou notamment, ont réussi à faire perdre au parti présidentiel un tiers de ses sièges dans la capitale à travers son appel à voter contre tous les représentants du pouvoir.
Claude Bruyot à Moscou pour France Culture. L'OCDE essaye de convaincre les États de s'accorder sur la taxation des géants du numérique. L'Organisation pour la coopération et le développement économique prône une approche unifiée. Pour elle, un État doit pouvoir taxer une entreprise même si elle n'a pas de présence physique sur son territoire. Cela concernerait les plus grandes entreprises et pas seulement celle du numérique. Bonsoir Marie Viennot.
Bonsoir.
Les détails des propositions que l'OCDE met sur la table restent à négocier, mais a priori, est-ce que ça veut dire des impôts en plus pour la France ou pas ?
Alors l'OCDE est en train de faire ses études d'impact. C'est bien sûr très complexe car beaucoup de détails restent à négocier. On ne sait pas quelle part de profit sera concernée par les nouvelles règles. On ne sait pas non plus sur quels critères ces profits seront répartis ensuite entre les différents pays où les multinationales font des affaires, le chiffre d'affaires réalisé dans l'entreprise, le nombre d'utilisateurs de ces produits. Beaucoup de choses restent à négocier. Ce qu'on sait, c'est que la France est l'un de ces pays de marché qui va pouvoir donc avoir de nouveaux droits à taxer et qu'elle peut donc espérer récupérer des impôts en plus sur des entreprises qui font des profits grâce à leur activité chez nous. Mais en même temps, il y a aussi les entreprises qui font des affaires dans d'autres pays et qui payent leurs impôts en France. Par exemple, la France pourrait recevoir moins d'impôts de ses champions du luxe, LVMH, L'Oréal, Hermès, qui ont leur siège social en France, mais font l'essentiel de leur chiffre d'affaires en Asie, car pour ces marques-là, la Chine et l'Inde seront aussi des pays de marché. De plus, du plus d'un côté, donc du moins de l'autre, est-ce qu'au final ce sera positif ? Le ministère des Finances, qui a déjà fait tourner ses calculettes, estime que oui. Même analyse pour l'OCDE, pour qui les gagnants de cette réforme sont les pays de marché, là où il y a des consommateurs, donc, et les pays en voie de développement. Les grands perdants seraient les paradis fiscaux, chez qui les entreprises multinationales n'auraient plus intérêt à loger leurs profits. Dans ceux qui perdent gagnent, il sera très intéressant de calculer l'impact de ces changements dans l'Union européenne, qui, composée à la fois de pays de marché comme la France et de paradis fiscaux comme l'Irlande, le Luxembourg et les Pays-Bas, arrive plus que divisée dans ses négociations à l'OCDE.
Marie Viennot. À l'approche des élections législatives en Pologne, le PiS, le parti au pouvoir, est largement favori. Les sondages lui promettent au moins 40% des voix à l'issue du scrutin de dimanche. Il faut dire que le parti de Kaczynski a multiplié les cadeaux durant cette campagne, sans oublier aucune catégorie. Marie-Pierre Véraud, vous vous êtes particulièrement intéressée à l'une de ces mesures, l'exonération fiscale totale pour tous les jeunes de moins de 26 ans.
La mesure pourrait coûter 2,5 milliards de zlotys, plus de 500 millions d'euros, mais la Pologne peut se le permettre. L'économie fait preuve d'une insolente santé, la croissance flirte avec les 5%, l'endettement est contenu, le chômage également. Une ombre au tableau toutefois, les jeunes Polonais continuent à s'expatrier et la main-d'œuvre manque. C'est pour les inciter à rester au pays que le PIS les exonère d'impôt sur le revenu, du moins jusqu'à leurs 26 ans. Domenica travaille depuis un an. Dans le café où elle nous a donné rendez-vous, cette jeune informaticienne refait ses comptes et apprécie la différence depuis l'entrée en vigueur de la mesure cet été.
C'est intéressant car jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de réforme qui concerne spécialement les jeunes, qu'ils soient étudiants ou jeunes travailleurs. Moi, cela me fait gagner 300 zlotys de plus chaque mois, c'est environ 80 euros. Ce n'est pas négligeable, mais pas assez pour convaincre quiconque de rester. D'ailleurs, j'envisage de partir à l'étranger et ce ne sera pas un argument décisif pour m'empêcher de m'expatrier.
C'est ce que relèvent tous les économistes. L'effet sur le marché du travail devrait être limité, nous explique Maciej Witucki de la Confédération patronale Léviathan.
Je ne pense pas qu'une exonération de ces jeunes, elle va arrêter l'émigration vers l'Europe occidentale. Les multiplicateurs de salaires sont de x4, x5 quand ils comparent le travail à Varsovie et à Londres. Des médecins continuent à apprendre les langues suédoises en parallèle de leurs études de médecine. Donc c'est plus une mesure politique vers un électorat jeune pour les attirer vers les partis au pouvoir, mais l'impact économique ne sera pas énorme.
Une décision plus politique qu'économique, c'est également l'analyse de l'opposition. Mais elle dénonce une guerre déclarée aux grandes villes qu'elle dirige. Car il faut savoir que seule la moitié des recettes de l'impôt sur le revenu va dans les caisses de l'État. L'autre abonde automatiquement le budget des collectivités. Et c'est une manne non négligeable. L'exonération fiscale des moins de 26 ans va ainsi coûter à la ville de Varsovie quelques 115 millions de zlotys, a calculé un jeune chercheur, Stanislav Zakroczemski. C'est plus, dit-il, que l'ensemble des investissements de la ville dans le social.
Ils sont très habiles. Ils mènent une guerre de basse intensité contre les villes. On vous retire de l'argent, on vous donne de nouvelles obligations sans les financer. C'est très dangereux, car cela se fait petit à petit. Et les gens ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer. Et ce qui est sûr, c'est que les villes et les collectivités locales vont devoir réduire leurs investissements. Or, c'est ce qui assure leur popularité. Les investissements dans les services sociaux, les infrastructures, la lutte contre la pollution dans les villes, c'est cet argent qui va manquer pour mener des actions courageuses et innovantes.
Le gouvernement promet certes de compenser par des dotations, mais les opposants ont peu d'espoir d'en voir la couleur. Pour le maire de Varsovie, la stratégie du PiS est claire.
Ça sera vraiment très très difficile de réaliser toutes les promesses qu'on a faites pendant la campagne électorale. Et ça, c'est exactement le but du gouvernement, de dire on réalise notre promesse électorale, mais les gouvernements locaux est complètement inefficace.
Comme si le PiS enjambait ces législatives où la victoire lui est promise et prenait date déjà pour les municipales, ce sera dans 3 ans.
Dossier signé Marie-Pierre Véro. Pour obtenir ou renouveler un titre de séjour, il ne suffit pas d'avoir rassemblé les informations et papiers nécessaires, il faut aussi obtenir un rendez-vous en préfecture. Eh bien, c'est devenu une mission quasi impossible, affirment les associations qui suivent les migrants, depuis que la prise de rendez-vous a été dématérialisée. Des dizaines d'associations telles que la CIMAD, la Ligue des droits de l'homme ou encore des syndicats et des coordinations de sans-papiers se sont mobilisés. Ils ont déposé une 50aine de recours en référé contre l'État devant le tribunal administratif de Montreuil ce matin et ils se sont rassemblés devant des préfectures de banlieue parisienne cet après-midi. Bonsoir, Vianney Smiarovski.
Bonsoir.
Vous vous êtes rendu devant la préfecture de Bobigny. Et pour les associations que vous avez rencontrées, il y a une volonté politique d'empêcher les étrangers d'accéder à leurs droits.
Les préfets se servent du numérique pour bafouer les droits. Voilà le genre de message qu'on pouvait lire sur les pancartes devant la préfecture de Bobigny. Les associations dénoncent donc les files d'attente virtuelles qui s'allongent depuis que la prise de rendez-vous pour une demande de titre de séjour se fait en ligne, avec la quasi-impossibilité d'en obtenir un. Johan Delhomme est responsable des questions de droit au séjour pour la CIMAD en Île-de-France.
Les milliers de personnes qui n'arrivent pas à se régulariser, alors que bon nombre d'entre elles rentrent dans les clous de la loi, sont sous le risque d'expulsion en fait. On a des personnes qui ont des familles, les personnes en famille en situation régulière, mais elles n'arrivent pas à avoir rendez-vous, peuvent être expulsées à tout moment, alors qu'aux yeux de la loi, elles ont droit à une carte de séjour. Et la deuxième forme qui se développe depuis un an, c'est les renouvellements de cartes de séjour. Donc on a des personnes qui ont une carte de séjour, qui ont un travail, qui ont leur famille, qui ont un emploi et un logement, qui perdent leur droit au séjour et donc qui perdent leur emploi, qui sont menacées par rapport à leurs droits sociaux en général. Et ce qui est une thématique nouvelle qui montre que structurellement, il y a un problème dans l'accueil des personnes étrangères.
Les associations dénoncent la situation de la préfecture de Seine-Saint-Denis, mais c'est aussi le cas ailleurs en France, selon elles, à Montpellier ou à Béziers, par exemple. Jean-Michel Delabre est membre de la Ligue des droits de l'homme.
Pourquoi se fait-il que des gens qui devraient avoir le droit de poser un dossier, donc d'avoir une réponse, qu'elle soit positive ou négative, pourquoi faudrait-il qu'ils fassent 3 mois ou 4 mois de capture d'écran, de mails incessants au service de la préfecture, de lettres recommandées, pour aller ensuite au tribunal dont la réponse sera encore à démontrer? C'est quelque chose qui, sur le plan des droits et du droit au recours et du droit de tout citoyen à pouvoir avoir accès à l'administration, au service public, c'est quelque chose qui nous paraît indigne.
Les associations pointent du doigt une politique migratoire de plus en plus répressive. Elles comptent maintenant sur la justice pour se faire entendre. Depuis le début de l'année, le tribunal administratif de Montreuil lui a été saisi près de 190 fois en référé pour demander à l'administration de fixer des dates de rendez-vous.
Après l'Assemblée lundi, le Sénat se lance à son tour dans un débat sur l'immigration. Débat ouvert par Édouard Philippe avant une succession d'interventions des groupes politiques. À l'Assemblée avant-hier, le débat a laissé droite et gauche sur leur faim. Les coûts et les délais du chantier de l'EPR de Flamanville sont sans cesse réévalués. L'autorité de sûreté nucléaire a demandé à EDF de réparer les soudures de l'EPR, une opération complexe, car ces réparations concernent 8 soudures difficiles d'accès près du réacteur. L'électricien envisageait 3 scénarios. Il vient de trancher, Véronique Reberotte. EDF compte utiliser des robots pour mener à bien ces réparations.
Oui, des robots téléopérés conçus pour mener des opérations de grande précision à l'intérieur des tuyauteries défaillantes de l'EPR de Flamanville, des opérations de soudure, notamment. EDF en a fait l'annonce ce matin par la voix de Xavier Ursa de la direction ingénierie d'EDF.
Le scénario privilégié aujourd'hui par EDF est une reprise de ces soudures de traversée en faisant intervenir des robots à l'intérieur des tuyauteries concernées. 4 types de robots seront utilisés. 1 pour l'arasage, 1 pour la découpe des soudures existantes, 1 pour le chanfreinage des tuyauteries et 1 pour réaliser les nouvelles soudures. Au regard de cette stratégie, donc consistant à privilégier le scénario de reprise par des robots, le conseil d'administration d'EDF, hier après-midi, a approuvé la poursuite du chantier de l'EPR de Flamanville.
Alors, de tels robots n'ont jamais été utilisés en France, ils viendront peut-être des États-Unis, mais avant cela, l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, devra approuver cet équipement. EDF va donc déposer un dossier technique qui devra être validé ou pas par l'ASN. Tout reste quand même à faire, s'inquiète Yves Marignac, il est expert en énergie nucléaire.
EDF présente aujourd'hui une nouvelle option de réparation sans aucune garantie qu'elle puisse fonctionner. Ce qui me frappe peut-être, ça n'est que très récemment, 6 ans après le début du problème, que EDF s'est sérieusement saisi d'une réflexion sur la réparation. Cette réflexion aboutit aujourd'hui à une proposition à base de robots. C'est complètement inédit comme processus. L'essentiel du travail est encore devant nous. C'est un pas de plus dans un chantier qui ressemble de plus en plus chaque jour à une véritable fuite en avant.
Alors si jamais l'ASN ne validait pas l'option robot, EDF avance un plan B, mais encore plus compliqué et plus coûteux. Pour l'instant, l'option robot fait grimper le coût de l'EPR de Flamanville à 12,5 milliards d'euros. Son coût initial était de 3,5 milliards d'euros, c'était il y a longtemps.
Véronique Reberotte, 10e journée d'audience au procès du Mediator. Sur les bancs des prévenus, le groupe pharmaceutique Servier et l'Agence nationale de sécurité du médicament. Aujourd'hui, le tribunal a commencé à entendre ceux que l'on peut qualifier de lanceurs d'alerte. Parmi eux, le médecin Gilles Bardelet, l'un des fondateurs de la revue Prescrire. Le compte-rendu d'audience de Florence Turme.
À 72 ans, Gilles Bardelet n'a rien perdu de la combativité qui devait déjà l'animer en 68 lorsqu'il s'engage pour une médecine orientée vers la qualité des soins, crée le syndicat de médecine générale, les cahiers de la médecine utopique, puis la revue Prescrire, avec comme mot d'ordre le boycott de la visite médicale et la recherche directe d'informations. En 1976, raconte-t-il, nous sommes amenés à mettre sur la sellette un nouveau médicament qui s'appelle Mediator. Cholestérol, diabète, les indications sont quasiment universelles, on appelle ça l'effet « bon pour tout ». Ça ne collait pas, on ne pouvait pas soigner tout cela correctement, poursuit le témoin. On s'est aperçu que c'était un dérivé des amphétamines dont la réalité anorexigène était camouflée. Le docteur Bardelet développe des arguments, les résume en une phrase. Le Mediator ne valait rien sur un plan thérapeutique et on faisait prendre des risques aux malades. L'indignation monte au fil de son audition. Il dénonce l'endormissement et la cécité des autorités chargées du médicament, puis la méthode Servier, falsification, demi-vérité. vérité, mensonge par omission pour orienter la pensée du prescripteur par un mirage biologique. L'ancien médecin ne s'arrête plus. Servier a révolutionné la visite médicale en embauchant plein de jeunes femmes très belles, habillées court. Il a repéré les meilleures dans les internats, financé des thèses, créé des relations privilégiées. Son témoignage se termine sur un credo. Il faut, lance Gilles Bardonnet, qu'il y ait des gens, médecins, pharmaciens, qui résistent à ces rôles de compromission. Dans la revue Prescrire, il avait institué une charte qui s'intitulait « Non merci ».
Florence Turme au tribunal correctionnel de Paris. Demain jeudi, Météo France prévoit un temps plus calme mais toujours nuageux. Il y aura encore des averses en matinée sur les Hauts-de-France, les Ardennes et le nord de la Lorraine et de l'Alsace. Des éclaircies sur le Roussillon et en région PACA, mais beaucoup de vent sur la Corse. Les températures minimales iront de 8 à 17 degrés du nord au sud, les maximales de 16 à 22. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.